Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à un livre, Le Grand Soir, voyage dans l'imaginaire révolutionnaire et libertaire de la Belle Époque. Et pour parler du coup de ce thème, hein, du Grand Soir, de l'idée finalement que le renversement du capitalisme aurait lieu dans un moment très précis, très bref, un grand chambardement, pour reprendre l'expression de l'époque, qui serait donc voilà justement le grand soir. Donc pour parler de cette thématique et d'une part, donc ça ce sera la première partie de notre émission, et pour parler d'autre part de l'espoir que ce grand soir se réalise un jour précis, c'est-à-dire le 1er mai 1906. Nous sommes avec, du coup, l'autrice de ce livre, paru aux éditions Libertalia en 2017, Aurélie Carrier. Donc, bonjour Aurélie.
Bonjour.
Et donc, pour préciser, donc, c'est un travail de réécriture d'un travail universitaire que tu as fait en Master 1 et en Master 2, et qui t'a donné l'occasion d'aller dans les archives historiques et de découvrir quand même pas mal de choses nouvelles par rapport à l'histoire de cet imaginaire du Grand Soir et aussi du 1er mai 1906. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce livre particulièrement intéressant, parce qu'il amenait quand même pas mal de choses en plus par rapport à l'histoire, disons, classique de l'anarchisme fin 19e, début 20e, de l'histoire du syndicalisme révolutionnaire. On rappelle qu'on a également fait deux émissions sur des sujets connexes. Une émission avec Guillaume d'Avranches sur l'histoire de l'anarchisme et du syndicalisme révolutionnaire de 1881 à 1914. Du coup, on ne reviendra pas trop dessus dans cette émission. Et aussi une émission qui va passer à peu près en même temps que celle-ci, avec Einsteiner, autour des luttes sociales à la Belle Époque. Mais là, dans cette émission, on parlera quand même de manière plus approfondie que dans l'émission avec Einsteiner sur le 1er mai 1906. Alors, du coup, pour revenir justement à cette expression du Grand Soir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que cet imaginaire, un petit peu, que la transformation sociale se ferait dans un Grand Soir, un instant très bref, complètement à rebours hein, de l'imaginaire actuel qui, finalement, est devenu beaucoup plus tranquille, où on insiste beaucoup sur les réformes, sur un temps extrêmement long, et alors que là, finalement, c'est un imaginaire qui va même plus loin que l'imaginaire de la transition, l'imaginaire bien connu du marxisme-léninisme. Comment est-ce que cet imaginaire d'un bouleversement social dans un temps très bref est né au 19e siècle ?
Alors, l'imaginaire du Grand Soir, donc, qui est le soir, comme tu l'as dit, de la destruction de la société bourgeoise et capitaliste, il correspond à peu près justement au moment libertaire du mouvement ouvrier français, donc à la fin du 19e, dans les années 1890. Il y a cette idée cette croyance en une révolution spontanée, une révolution sociale qui régénérerait en fait le corps social, elle est assez présente, elle est, enfin, elle est partagée, et tout particulièrement par les anarchistes. Et c'est vrai que c'est eux qui, principalement, vont l'alimenter. Alors, enfin, très rapidement, pour un peu l'expliquer et poser le contexte, on peut dire d'une part qu'au regard de l'héritage depuis 1789, de l'héritage du 19e siècle et des temps forts de l'histoire sociale, il y a donc cette croyance en une révolution prochaine. Elle peut s'expliquer d'une part par le fait qu'avec l'industrialisation et donc la naissance du prolétariat et la misère en fait de la condition ouvrière, il y a cet espoir en fait d'un temps nouveau où on sortirait de cette condition de misère induite par le capitalisme. Et aussi cette idée qui monte quand même de plus en plus de lutte des classes en fait, finalement. Une idée qui prend forme, j'ai envie de dire, avec 48, la commune, etc., que voilà, ça va être un affrontement entre les classes, que la paix sociale en fait n'est pas possible. Donc on peut y voir là l'aspect à la fois peut-être violent et radical que renferment les images de l'imaginaire du grand soir. Et par ailleurs, il y a aussi, donc en cette fin du 19e, même si après, a posteriori, on parlera de la Belle Époque, pour la toute fin du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais qui est une construction du 20e siècle, en fait, les contemporains de la fin du 19e siècle ne le vivaient pas forcément comme une belle époque. En tout cas, elle n'était pas belle pour tout le monde. Donc il y a, à partir des années 1880, la crise économique, enfin une crise économique notamment en France, et une espèce aussi d'esprit décadent qui s'empare de la bourgeoisie, et les anarchistes en fait profitent un peu de cet état d'esprit pour peindre une société totalement décrépite, enfin au bord de l'effondrement et mourante, et avec l'idée que voilà le face à une société qui en fait périra de son vice, le grand soir va en être le remède.
Oui, justement, c'est une expression dont tu parles dans ton livre. C'est l'idée, c'est une espèce d'esprit de fin de siècle qui, effectivement, est très, très discuté dans la droite et l'extrême droite, et qui, en même temps, se retrouve aussi d'une manière complètement différente chez les libertaires ou des penseurs proches du syndicalisme révolutionnaire, comme Sorel, par exemple, mm-hmm. et qui... contraste peut-être assez fortement avec un imaginaire peut-être du milieu du 19e siècle qui était peut-être un imaginaire un peu plus, par exemple si on prend la vision de l'histoire un petit peu de Proudhon, une vision où on avance vers un progrès et où finalement, et aussi une vision progressiste entre guillemets de l'histoire qui laissait plus place à une forme de réformisme, de l'idée qu'on peut conquérir petit à petit, alors que justement cette ambiance fin de siècle et aussi le fait qu'il y a aussi une prise de conscience, et c'est le syndicalisme révolutionnaire né de ça, que la République ne n'apportera rien aux travailleurs et aux travailleuses, qui finalement pousse à un imaginaire qui est un imaginaire révolutionnaire, insurrectionnaliste, qui laisse peu de place, disons, au réformisme ou, disons, au compromis politicien, et qui, plutôt que d'espérer, disons, un progrès perpétuel, donc qui est la mythologie qui, par exemple, est présente au milieu du 19e siècle quand même dans une certaine mesure, et puis après qu'on va retrouver plus tard, par exemple pendant les Trente Glorieuses en France, ou aujourd'hui, même si c'est des réformes qui vont plutôt dans un autre sens. Enfin, il y a vraiment quelque chose de spécifique à cette atmosphère fin de siècle et à ce thème du grand soir.
Bah, c'est vrai qu'on peut... On peut, quand on compare avec peut-être plutôt comme tu disais, le milieu du 19e, on peut aussi prendre en compte le fait que, sans trop schématiser, mais que la conscience de la classe ouvrière, c'est quand même un peu, enfin, a pris forme, se cristallise à la fin du 19e siècle, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Il y a aussi parce que le mouvement ouvrier lui-même se structure. Et comme il n'y a plus effectivement à attendre, enfin, ou moins, parce qu'il y a quand même encore dans certains. Certaines corporations ou quoi qui, dans certains milieux, on vote aussi, enfin on vote ou on croit aussi en le progrès par, enfin, par exemple, avec après la naissance du Parti socialiste à partir de 1905, qui d'ailleurs viendra plus ou moins concurrencer en fait le syndicalisme révolutionnaire, mais c'est vrai que là on est plus chez les anarchistes. Il y a cette idée, enfin cette théorisation de vraiment de l'action directe qui est assez propre aux anarchistes et qui d'ailleurs qu'ils vont insuffler dans la naissance du syndicalisme révolutionnaire à partir de 1895. Enfin, pour reprendre sur le côté un peu fulgurant et immédiat en fait aussi du Grand Soir et cette idée en fait que la transformation aura lieu en un seul soir, ça tient aussi avec cette idée que la violence et le chaos destructeur par lesquels le vieux monde périra permettront d'accélérer le temps en fait. Donc c'est vrai que souvent les représentations sont dans un temps très court, en tout cas dans les poèmes ou les nouvelles que je cite dans le livre. Ce côté où tout le changement, tout le bouleversement se passe en une nuit, ça permet, il y a une vraie fonction sociale et encore une fois effectivement subversive de l'idée que ça permet de se représenter en fait le grand soir lui-même, la révolution sociale de laquelle naîtra un matin, enfin une nouvelle société dont les contours sont souvent esquissés en fait à grands traits. Ce qui compte, c'est la destruction, la révolution, et après on construira le futur.
Et c'est marrant parce que on a un petit peu, ça fait écho à, je pense, disons des conceptions du changement social plus généralement, parce que je parlais de Proudhon et on pourrait aussi parler de, enfin, j'ai l'impression que le courant anarchiste, comme d'ailleurs le courant marxiste, est traversé par des conceptions de la révolution, disons, qui a un pôle. C'est une conception un petit peu assez progressiste où on passe, l'humanité est passée par des stades. Proudhon lui-même pensait que la naissance du christianisme, par exemple, c'était une forme de progrès, et puis que petit à petit, enfin voilà, il y avait une vision un peu progressiste. On retrouve aussi ça dans la social-démocratie, où ça en passe par des étapes, etc., etc. On retrouve ça aussi dans la théorie marxiste avec l'idée qu'on retrouve dans le manifeste du Parti communiste, où à un moment il y a une prise de pouvoir politique et après il y a une transition qui va vers le communisme et qui passe par le socialisme, bon, le capitalisme d'État pour faire bref. Et d'un autre côté, même chez Marx ou même dans des courants marxistes anti-autoritaires, à certaines périodes, on a une vision, et qu'on retrouve aussi dans l'imaginaire du Grand Soir, que la société capitaliste est à bout, elle est en crise, le mouvement ouvrier, à un moment, va entrer en éruption. C'est presque même au-delà de la question de la conscience de classe, c'est moins une espèce de vision de le mouvement ouvrier, petit à petit, doit accroître sa puissance, forcer des réformes politiques, mais il y a plus une vision que, entre guillemets, c'est la crise finale, levons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il y a cette vision-là qu'on retrouve dans l'imaginaire du Grand Soir, enfin, voilà, qui en fonction des époques fait plus ou moins écho. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'imaginaire du Grand Soir paraît complètement décalé, mais on sait que par exemple dans les années 68, en France, il a fait un certain retour. On sait aussi que ce que tu me disais faisait aussi penser quand même à ce que disait un peu Bakounine, de l'idée qu'une société nouvelle allait naître par une espèce de destruction radicale de la société existante. Alors que, par exemple, quelqu'un comme Proudhon ou la social-démocratie, même si c'est des courants qui sont différents, avait une vision peut-être un petit peu plus dans la construction et tout ça. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Du coup, le Grand Soir apparaît comme une espèce d'imaginaire, une conception catastrophiste à la fois du capitalisme, une vision destructrice de la révolution. Et en même temps, c'est là où je voulais aussi en venir, tu parles un petit peu dans ton livre de à la fois des convergences et des divergences avec plus généralement un imaginaire un peu millénariste, quoi.
Oui, l'aspect catastrophique et enfin catastrophiste et parfois même très romantique en fait de la révolution qu'il y a dans l'imaginaire du Grand Soir, il s'incarne souvent par des métaphores à la limite de biblique, quoi. Enfin, là l'aspect messianiste ou une sorte de millénarisme anarchiste en fait, où il ne s'agit plus de la justice divine, mais de la justice populaire. Enfin, on reprend un peu les mêmes images, enfin des images religieuses très très eschatologiques, encore une fois, avec toujours cette fin de siècle. Et mais voilà, c'est l'ouragan qui est métaphorisé par, enfin le peuple qui est métaphorisé pardon, par l'ouragan, la tempête, etc., qui vont encore une fois détruire, alors que Avant l'apparition de l'expression, on avait tendance plutôt à assimiler la révolution à un grand jour. J'explique un peu, enfin, il y a une partie qui s'appelle du grand jour au grand soir. Et on peut voir dans ce passage du grand jour au grand soir, et ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois une radicalisation et une laïcisation des images et des symboles. Parce que quand je cite des extraits, que ce soit la presse anarchiste, on va dire, simple, que ce soit un texte, on va dire, de propagande, ou un texte beaucoup plus littéraire, très lyrique, où il est question de l'heure est proche, voilà, des formules comme ça, très, très sentencieuses, beaucoup de personnes me font remarquer que c'est très religieux et que c'est très étonnant, en fait, pour les anarchistes. Et on peut l'expliquer de plusieurs façons. D'une part, parce que malgré tout, la France, même si après 1905, par exemple, la loi de séparation des Églises et de l'État, etc., il y a un vrai mouvement de déchristianisation, mais là, l'imaginaire catholique et religieux est assez présent. Donc, c'est pas anodin, je pense, de reprendre des images, parce que ça parle aux gens. Et l'un des buts, je pense, d'employer cette image de grand soir, c'est justement pour vraiment motiver, pour que l'imaginaire soit moteur en fait du changement social. Cette image de grand soir de la nuit, elle sert la vision insurrectionnelle du changement social.
Oui, et c'est intéressant justement que tu évoques tout cet aspect, presque, on pourrait presque dire que c'est une sorte de millénarisme sécularisé, d'une certaine manière. Et je pense que, par exemple, les travaux de Michael Lowy ont pas mal montré qu'on avait fait une opposition drastique entre, d'une part, les mouvements ouvriers progressistes et, d'autre part, les mouvements romantiques, alors qu'en réalité, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'ai l'impression, dans tout ce que tu décris de cet imaginaire du grand soir, que cet imaginaire du grand soir et plus généralement l'imaginaire de la révolution, lié notamment au syndicalisme révolutionnaire fin 19e et début 20e, il est d'une certaine manière à mi-chemin entre une forme de progressisme bourgeois qui a été notamment celui de Marx ou d'une autre manière de Proudhon, si j'étais un petit peu méchant, avec l'idée, alors là pour le coup, qui se rapporterait plus à quelque chose de plus progressif, ou la raison, disons, moteur de l'histoire qui petit à petit délivre l'être humain de la nature, etc., etc. Et d'un autre côté, une vision où l'histoire n'est pas pensée comme du coup cette espèce de progrès perpétuel, mais plutôt comme une espèce de décadence par rapport à un âge d'or lointain. Et c'est un imaginaire, par exemple, qu'on retrouve aussi, principalement lié quand même, il faut le dire, à l'extrême droite, un imaginaire romantique. Et ce qui fait, par exemple, que le fait qu'il y ait dans le syndicalisme révolutionnaire un aspect un petit peu, millénariste, romantique, a pu faire que certains historiens en ont tiré des conclusions un peu hâtives, comme par exemple J.F. Sternel, qui en a tiré la conclusion, peut-être moins sur ce plan idéologique-là, mais disons plus généralement, que finalement, il y avait des accointances finalement entre le syndicalisme révolutionnaire et le fascisme, alors qu'en fait, on se rend compte que peut-être que justement cet imaginaire du grand soir et le mouvement social qui lui est accolé, c'est original, ça, c'est ni l'un ni l'autre, et c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu perturbant aujourd'hui, puisque c'est pas le mouvement ultra rationalisé, le mouvement mouvement ouvrier, disons, guidé par le Parti communiste français, avec une vision très scientiste, finalement, de l'histoire, très rationaliste, ni, quelque chose d'extrêmement romantique, décadent, etc. Mais c'est quelque chose de très original, cet imaginaire du grand soir.
Effectivement, comme l'a bien montré Michael Louis, la particularité, là, c'est qu'on est dans un romantisme qui est révolutionnaire, puisque le romantisme, qu'il soit littéraire, politique, au XIXe siècle, effectivement, est beaucoup plus accolé à des milieux conservateurs, et avec souvent cette idée d'un retour à l'âge d'or, alors que le pseudo-âge d'or tel qu'il est évoqué souvent par les anarchistes, ça peut être une sorte de passé pré-capitaliste, mais il n'est pas forcément... il est rarement question d'un retour, en fait, aux origines, quelque chose de primitif. Par contre, il y a effectivement ce lien... l'homme qui désigne les êtres humains, l'homme et la femme, ce lien avec la nature et l'aspect de régénération, effectivement, qui est très important. Mais encore une fois, l'idée en tout cas de continuité avec l'histoire, je pense qu'elle n'est pas là, parce qu'il y a une vraie idée de rupture et voire d'irruption, en fait. Et avec cette idée que quand je dis mouvement ouvrier, c'est vrai que ça dépasse, en fait. Enfin, c'est, je sais pas, les prolétaires. Enfin, c'est aussi bien sûr les paysans. Enfin, c'est un corps social assez assez large. À la fois qu'ils auront enfin leur place au banquet social, et puis même, enfin, de toute façon, il s'agira pas forcément de partager avec les bourgeois, parce que ils seront mis au pas ou pas. Mais cette idée, voilà, d'avoir sa place. Ce qui est différent avec les mouvements millénaristes antérieurs, notamment peut-être ceux du Moyen-Âge, c'est encore une fois la question religieuse ou pas, c'est que dans l'imaginaire du Grand Soir, il n'est jamais question, même s'il y a beaucoup de changements atmosphériques, encore une fois beaucoup de métaphores, que à la limite les changements dans le ciel peuvent symboliser les changements quelques étapes de la révolution, à savoir le feu qui va permettre de tout brûler, toujours cette idée donc assez chère à Bakounine de détruire pour mieux reconstruire, etc. Il n'y a pas de puissance surnaturelle, et si c'est pas forcément dit de cette façon dans les textes, encore une fois plus littéraires ou poétiques, dans les textes de propagande, il y a toujours un appel, en fait, à l'organisation, à l'action, à l'autonomie, qu'elle soit individuelle, donc pour l'émancipation des esprits, et bien sûr une autonomie collective qui après s'incarne encore plus avec le syndicalisme révolutionnaire.
Oui, c'est évidemment cet imaginaire du grand soir, c'est pas un imaginaire, réactionnaire. C'est presque, on pourrait dire que c'est, enfin, peut-être pour contextualiser, j'ai un peu l'impression que cet imaginaire du grand soir, s'il a particulièrement de la force dans les années 1890-1900, c'est parce qu'on est dans une conjoncture où, d'une part, évidemment, le mouvement révolutionnaire, les ouvriers savent très bien ce que c'est que la réaction, ce que c'est que la droite. Il y a eu l'écrasement de la Commune de Paris par une assemblée majoritairement monarchiste. La critique du féodalisme est encore présente. L'imaginaire de la Révolution française, et qui est une révolution dont le principal achèvement a quand même été anti-féodal, il est encore présent. Donc disons que c'est ça qui fait qu'évidemment l'imaginaire du Grand Soir ne peut pas être un imaginaire de retourner en arrière, puisque finalement les prolétaires de cette époque savent très bien ce que c'est que l'ancien régime, ce que c'est que la domination aristocratique, ce que c'est que la monarchie, et ils n'en veulent pas. Et d'un autre côté, ils vont aller plus loin que le mouvement ouvrier, la majorité du mouvement ouvrier français jusqu'aux années peut-être 1860, peut-être il y avait peut-être encore quelques illusions dans les années 1880, mais en tout cas dans les années 1890, ça tombe, cet imaginaire de la République sociale. parce que cet imaginaire de la République sociale, bon, déjà, il a été pas mal déçu en 1848, en 1870 avec la répression de la Commune de Paris, et puis dans les années 1880 avec l'affermissement de la République. Disons, les prolétaires voient bien que globalement, il n'y a même pas vraiment de réforme sociale à cette époque. Il faudra attendre un certain temps. J'ai l'impression que cet imaginaire du grand soir, il va bien avec une conscience que, à la fois, l'ancien régime, c'est pas émancipateur, c'est voilà, il faut pas y retourner. Donc ça, qui est finalement un grand classique hein, du mouvement ouvrier depuis la période révolutionnaire, et en même temps que la modernité bourgeoise, libérale, républicaine, bah en fait finalement elle est extrêmement décevante, et que du coup il faut finalement en finir avec tout. Enfin, c'est presque ça fait un peu écho à aux paroles de l'Internationale du passé, faisons table rase. Finalement, il faut faire table rase à la fois du passé féodal et du passé bourgeois.
Bah, c'est vrai qu'à la fin du 19e, avec l'institution vraiment de la Troisième République, on est dans un moment un peu charnière, puisque du point de vue de l'État, il y a une volonté, on est 100 ans après la Révolution française, donc il y a une volonté aussi d'intégrer en fait la Révolution dans le roman national, enfin dans le récit national, de lui donner toute sa place, enfin une place en tout cas dans l'histoire de France. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est Gaetano Manfredonia qui l'explique très bien, c'est que les anarchistes sont confrontés un petit peu à un dilemme. C'est que, d'une part, il y a beaucoup de textes dans les journaux que j'ai pu lire où ils disent qu'il n'y a rien de changé, que ce soit Le Père Pénard, ou une chanson aussi de Paul Payet qui dit nos frères avaient l'esclavage, nos frères avaient le servage, aujourd'hui c'est l'esclavage, enfin, je ne sais plus exactement comment il le dit, mais pour montrer une similarité en fait entre la révolution de 1789 en fait a permis de certes de mettre fin à l'ancien régime, mais nous prolétaires des usines et des champs, on reste toujours sous la coupe d'un bourgeois, d'un maître, etc. Et donc il y a à la fois l'idée de dire bon, la révolution de 1789 finalement est à continuer, ça a été une révolution politique, mais la justice sociale, l'égalité et la fraternité ne sont toujours pas au rendez-vous. Et en même temps, il faut se démarquer des autres forces de gauche naissantes, et donc un peu après par exemple le Parti Socialiste, ou même avant avec Jules Guesde, et s'inscrire aussi dans une tradition révolutionnaire. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce hiatus à trouver sa place et à construire une culture politique anarchiste propre, qui va être de à la fois de, par exemple, de se réclamer peut-être plus de Marat que des révolutionnaires de 1789, hein, que la frange, on va dire, plus bourgeoise de la Révolution, et en même temps de dire la Révolution sociale n'a pas été faite, celle-ci reste à faire. La situation d'aujourd'hui le montre bien, quoi.
Oui, c'est là, effectivement, où ils sont en décalage par rapport à la lecture un peu d'histoire du Parti Socialiste de Jaurès, puisque finalement, si on reprend l'histoire de la Révolution française de Jean Jaurès, c'est une vision très progressiste, où finalement, on est dans une vision de l'histoire où finalement, toujours, ça s'améliore, et du coup, là, ce qu'il faut, c'est rentrer dans les institutions de la Troisième République, instaurer des réformes sociales, etc., chérir l'héritage de la Grande Révolution. Les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires ne peuvent pas rejeter, évidemment, la Révolution française 1848, parce que ce serait, évidemment, se couper d'un imaginaire qui traverse le mouvement ouvrier et les paysans tout au long du 19e siècle. Et en même temps, ils doivent se démarquer. Et une des manières de se démarquer, effectivement, c'est en prenant une rupture radicale avec la République et avec la société bourgeoise, etc. Ce qui fait que, effectivement, et ça, on en a parlé dans l'émission avec Guillaume Davranche, ce qui fait que certains, à partir, disons, des penseurs relativement proches de cet imaginaire du grand soir et du syndicalisme révolutionnaire, iront déséquilibreront, disons, cette espèce d'entre-deux entre une critique de la réaction et une critique de la modernité bourgeoise, et iront plutôt du côté de la réaction, comme d'ailleurs à l'inverse, d'autres iront plutôt du côté de la modernité bourgeoise. Donc on voit que finalement, ce mythe du grand soir, il était à la fois, il a eu une force, et on va le voir dans la deuxième partie de l'émission, et en même temps, c'était un produit tellement original que par rapport aux deux grandes philosophies de l'histoire de son temps, que c'était ça explique aussi pourquoi est-ce que ce mythe du grand soir, il a, en dehors des périodes révolutionnaires où il est un peu revenu dans les années 68 et tout ça, comment est-ce qu'il a pu finalement, dans des périodes de moindre agitation sociale, s'effondrer au profit soit de la réaction, soit de l'apologie de la modernité bourgeoise.
C'est pour ça aussi que on voit, si on devait faire par exemple un tableau un peu statistique des occurrences du grand soir dans les textes, qu'il y a d'une part, ça apparaît l'expression est beaucoup employée vraiment au tournant de 1899-1900. On a l'impression qu'on pose les bases d'un imaginaire et qu'il fonctionne un peu en tandem en fait avec l'idée très en vogue de grève générale qui apparaît bien avant, mais qui est vraiment qui suscite la ferveur et qui rencontre l'adhésion d'une partie du mouvement ouvrier de la fin des années 1890 jusqu'à à peu près les 1910-1911, même si après on associera l'idée avec de grève générale avec l'idée de faire échec à la guerre. Et Einsteiner, je pense, le dit aussi de cette période 1905-1911. On peut prendre 1905, même s'il y a bien sûr des conflits et des mouvements sociaux avant, mais parce qu'on est 10 ans après la création de la CGT. Donc on est dans un mouvement social constitué et revendicatif où pendant 5, 6, 10 ans, il y a énormément de conflits et on a l'impression que chaque manifestation ou chaque grève ou chaque affrontement pourrait être l'étincelle, enfin pourrait être les prémices de la révolution sociale tant espérée et sur laquelle on discourt depuis déjà un moment.
Oui, c'est-à-dire que ça c'est important de le dire, c'est que cet imaginaire du grand soir, il n'aurait pas eu un tel écho s'il n'y avait pas déjà une certaine conflictualité sociale. C'est une conflictualité sociale qui va évidemment renforcer, mais il n'aurait pas eu un écho tel s'il n'y avait pas eu déjà une forte conflictualité sociale. Et c'est pour ça que, évidemment, quand on est dans des périodes où la conflictualité sociale est moindre, ou alors, il faut bien le dire, où les structures du mouvement ouvrier sont différentes. Par exemple, on peut penser au fait qu'à partir des années 1920 jusqu'aux années 1980-1990, le mouvement ouvrier français va être un petit peu capturé par le Parti communiste français, où là, l'imaginaire du grand soir, pour le coup, va complètement disparaître, puisque finalement, cet imaginaire du grand soir, il est qualifié systématiquement d'aventurisme, petit bourgeois, etc. Bon, enfin, on va pas revenir trop là-dessus, mais finalement, cet imaginaire du grand soir, il va de pair avec une forte conflictualité sociale. Le fait que le mouvement ouvrier n'est pas cadenassé par le Parti communiste français ou par le Parti socialiste. Et enfin, et peut-être là-dessus, ce serait intéressant de développer, avec l'idée la grève générale est ce qui va permettre d'en finir avec le capitalisme. Et ça, c'est en décalage. Parce que finalement, on pourrait se croire que finalement l'imaginaire du grand soir, c'est un imaginaire qu'on pourrait associer par exemple à la Commune ou à l'insurrectionnalisme anarchiste des Bakounine, etc. Alors que en réalité, le grand soir va plutôt se coupler avec la stratégie révolutionnaire entre guillemets de la grève générale.
Pour le XXe siècle, très brièvement, c'est vrai que, enfin, moi, je connais pas très bien, mais c'est vrai que l'incarnation, si on peut dire, du grand soir, elle va du coup être plus à l'étranger, si on prend la révolution russe, même si après on connaît la suite, ou par exemple 36 en Espagne, de relier en fait l'idée force de grève générale et l'imaginaire du grand soir, ça permet un petit peu aussi de pointer les atouts et les limites de cette image du grand soir. puisque il y a vraiment l'idée, comme on l'a dit, d'une rupture, d'une fulgurance, enfin de nous projeter au soir de la Révolution quand on la décrit, pour se la représenter, puisqu'il y a cette idée que la transformation sociale sera possible si on se l'imagine. Donc c'est encore une fois vraiment, encore une fois, l'imaginaire comme vecteur. Mais les limites aussi, ça pourrait être de s'en tenir à ça, en fait, de n'y voir qu'une sorte de, un peu de formule magique incantatoire. Et c'est pour ça qu'il y a les auteurs que j'ai pu lire et rapporter dans le livre. Certains le disent, quoi. Le grand soir, il faut le vivre. Le grand soir, il ne faut pas l'attendre, il faut le faire. Donc, avec cette incitation permanente à l'action et qui va trouver, en fait, à s'incarner très concrètement avec l'idée de grève générale, où du coup on a une sorte de mix un peu de la grève générale qui permettra de déboucher sur le grand soir, même si on retrouve après aussi une vision, quand c'est une vision, on va dire, strictement syndicaliste, on s'écarte un peu aussi du grand soir où on va avoir une description peut-être beaucoup plus précise de la société d'après la grève générale, où il y aura directement une réorganisation de la production, où la société du lendemain de la Révolution sera beaucoup plus pensée précisément que dans l'imaginaire du grand soir.
Oui, c'est-à-dire qu'on est moins dans une espèce d'imaginaire millénariste assez vague, finalement une espèce de mythe mobilisateur de voilà. Tout va changer, mais finalement on ne sait pas trop ce qui va se passer, et on passe sur un projet syndical d'une société réorganisée à partir par exemple du syndicat. C'est tout l'imaginaire du syndicalisme révolutionnaire. Et là, pour ce qui est de l'Espagne, puisqu'on l'a évoqué, on peut renvoyer à l'émission qu'on a fait avec les gymnologues sur ce sujet. Mais cet imaginaire de la grève générale, il a deux facettes. Un qui est très lié au grand soir, où finalement ça va être la grève générale qui va abolir le capitalisme, et un imaginaire qu'on trouve encore aujourd'hui, qui est effectivement assez séduisant, puisque au moins il écarte, disons, la fameuse question de la transition, et qui effectivement dans l'histoire a assez mal terminé tout ça. Et en même temps, aujourd'hui, c'est critiqué comme étant démobilisateur, parce que finalement, on attend toujours que le prolétariat mondial se soulève, etc. Enfin, bon, en fait, finalement, cet imaginaire du grand soir, il est toujours l'objet de débats critiques jusqu'à aujourd'hui. À la fois objet de débats critiques lorsque c'est la grève générale qui mène au grand soir, ou même aujourd'hui, l'idée que la grève générale ne mène pas au grand soir, mais mène, disons, à des grandes réformes et tout ça, parce qu'il y a cette double facette dans la grève générale. Il y a à la fois l'imaginaire du grand soir et en même temps un imaginaire dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission, où il y a un objectif plus pragmatique, disons, de la journée de 8 heures, quoi.
Le mythe mobilisateur, justement, c'est l'expression qu'emploie Sorel pour qualifier la grève générale. Et si il emploie le terme de mythe qui lui sera reproché, mais dont il s'expliquera, notamment par le fait qu'ils disent oui, certains décrivent, et notamment Jaurès, ils ciblent pas mal les parlementaires socialistes en disant Jaurès parlait de la grève générale au début comme d'une utopie anarchiste, donc totalement irréalisable. Et il dit, même si j'ai eu tort d'employer ce terme de mythe, finalement, si cette idée était si illusoire que ça, toutes ces personnes politiques ne s'échineraient pas tant à la combattre. Donc c'est qu'elle a une force. Donc mythe mobilisateur, et il dit les hommes qui luttent ont besoin d'images victorieuses, en fait, de se représenter leur action sous la forme d'images victorieuses. Et c'est vrai que c'est là qu'on retrouve vraiment l'analogie entre le grand soir et la grève générale, sachant que la grève a vraiment, encore une fois, ce côté très pratique, et que si l'idée de grève générale, elle est ancienne, elle date. Elle est notamment déjà évoquée pendant la première internationale avec l'idée de... on parle de grève universelle contre la guerre, etc. La grève générale, donc, elle est débattue dans les années 1890 dans des congrès politiques, dans des congrès ouvriers. Mais si elle fonctionne, on va dire, aussi bien dans les esprits, c'est qu'elle... Enfin voilà, la grève naît de l'action, quoi. C'est pas l'inverse. Enfin c'est pas. Là on n'est pas vraiment de la théorie à la pratique, mais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que de ces pratiques, on les a théorisées. Et Fernand Peloutier, qui est un grand défenseur de l'idée de grève générale au début des années 1890, et qui après aussi lui insistera énormément sur donc, qui est l'un des instigateurs du mouvement des bourses du travail et qui insistera vraiment sur la nécessité pour les anarchistes d'être au cœur des luttes et au cœur du mouvement ouvrier. Voilà, lui, il définit la grève générale en 5 points et il dit notamment que voilà, la grève générale permet de faire l'économie de l'insurrection parce que tout ce qui est les barricades, ça ne marche plus. Puis en plus, les barricades, c'est un moyen de défense alors que voilà, il faut être... il faut être offensif, etc. Enfin, il parle plus en fait de grève, de grève généralisée que de grève générale, puisqu'il s'agit de couper les points stratégiques, etc. Et à la fin, il le dit, il dit dans son texte où quand il définit la grève générale, il dit la grève générale, je le dis carrément, est une révolution. Donc, il assimile vraiment les deux. Et voilà, je pense que ce côté vécu, quoi, expérience très 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 empirique en fait pour dans le mouvement ouvrier explique aussi la force de l'idée à ce moment-là.
Ouais, c'est-à-dire que la grève générale associée donc à l'imaginaire du Grand Soir, elle est à la fois, disons, des pratiques de grève qui déjà parce qu'elles suspendent un temps l'ordre des choses, l'exploitation capitaliste, parce que elles redonnent prise, parce que disons elles montrent la puissance du prolétariat par rapport au capital, qui du coup
producteur.
C'est ça. Où effectivement on voit que effectivement le capital est dépendant en fait du prolétariat. Et évidemment, ça nourrit cet imaginaire de la grève générale. Et d'un autre côté, à son tour, l'imaginaire de la grève générale qui procède de la pratique va encourager des pratiques de grève plus massives, telles que celles qu'on va voir notamment le 1er mai 1906, même si ce n'est pas aussi réussi que ça le voulait. Mais finalement, le Grand Soir et l'imaginaire des grèves générales ont eu autant de force, c'est parce qu'elles procédaient de la pratique et que d'un autre côté, elles permettaient aussi, enfin qu'elles avaient aussi un débouché pratique et que ce n'était pas uniquement, comme d'ailleurs on lui a beaucoup reproché, uniquement une espèce d'utopie fantaisiste, puisque en l'occurrence... lorsque le Grand Soir s'incarnait, par exemple, dans une stratégie révolutionnaire comme la grève générale, et on pourrait presque dire la grève générale insurrectionnelle, puisqu'il n'y a pas seulement l'aspect de l'arrêt de travail, comme tu l'as dit, il y a vraiment quelque chose de très pratique et de l'ordre de la stratégie révolutionnaire, une stratégie révolutionnaire qui, à vrai dire, est plus séduisante que celle uniquement, disons, d'attendre des réformes sociales qui n'arriveraient jamais, ou l'imaginaire qui, à l'époque, du coup, n'est pas très présent, mais qui ensuite va cadenasser le mouvement ouvrier du marxisme-léninisme, de la prise du pouvoir politique par une minorité dictatoriale.
Bah, c'est d'ailleurs là-dessus que... Et on retrouve, je pense, cette opposition peut-être un peu aujourd'hui, mais c'est l'une des questions sur lesquelles le mouvement anarchiste va quand même plus ou moins se diviser au moment où... où les anarchistes entrent dans les syndicats, puisque d'un côté, 1893, des débuts des années 1890, après ce qu'on a appelé la période des attentats, où le mouvement anarchiste est vraiment décimé en fait par la répression. Le fait de rejoindre le mouvement ouvrier par les syndicats, enfin d'inciter à la fois les anarchistes à y entrer et pour diffuser une parole, ça va permettre dans un sens au mouvement anarchiste de un peu de renaître de ses cendres, enfin en tout cas de trouver un second souffle. Et c'est aussi à ce moment-là que d'autres courants, enfin je sais pas si c'est vraiment à ce moment-là, mais que s'affirme aussi ce qu'on a appelé les anarchistes individualistes, ou avec cette idée soit qu'il faut vivre maintenant, qu'il faut vivre en anarchiste maintenant, sans forcément attendre le grand soir, avec l'idée que dans un sens le syndicalisme serait un peu le fossoyeur en fait de l'idée anarchiste, puisque et même si ça se vérifie pas au début, ça se vérifie ensuite, où il y a effectivement un aspect réformiste, même dans le syndicalisme révolutionnaire, comme on va pouvoir le voir avec le 1er mai 1906.
Voilà, et donc on va passer une pause musicale avant de passer justement à la dimension très pratique du grand soir, c'est-à-dire la préparation et la grève du 1er mai 1906.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'étoiles stationnaires, philosophie. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je le conscris, il vaut mieux déserter. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Les élus foulés à la potence, lorsque l'on souffre, on doit pouvoir châtier. Leurs électeurs, croyez-les d'importance, envers aucun, il ne faut de pitié.
Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots, hâtons la guérison. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme, aujourd'hui autour de Le Grand Soir, voyage dans l'imaginaire révolutionnaire et libertaire de la Belle Époque, paru aux éditions Libertalia en 2017, et nous sommes avec l'autrice de cet ouvrage très intéressant et très recherché, donc qui est basé sur un travail d'archives très intéressant. Et donc, dans la première partie de cette émission, avec Aurélie Carrier, nous avons parlé de l'imaginaire du Grand Soir. Et maintenant, on va passer un petit peu plus à l'aspect pratique, c'est-à-dire au fait que le 1er mai 1906 a été conçu à la fois comme l'espoir d'un Grand Soir, d'un bouleversement révolutionnaire, ou au moins, peut-être plus pragmatiquement, comme la possibilité d'obtenir la journée de 8 heures, hein, qui est une revendication ancienne du mouvement ouvrier. Et en même temps, comment est-ce que cette idée du Grand Soir et de la grève générale du 1er 1906 va être instrumentalisée par la presse conservatrice et par la République pour créer un climat défavorable, justement, à une transformation sociale.
Donc, au congrès de Bourges, en septembre 1904, au congrès de la CGT, il est décidé de faire du 1er mai 1906 une date pour l'obtention de cette revendication de la journée de 8 heures, qui est une revendication d'une part assez ancienne, et notamment par la voix d'Émile Pouget, qui était le principal rédacteur du journal Le Père Pénard, journal anarchiste très très argotique, très très faubourien, qui est à la fois secrétaire, je crois, adjoint de la CGT et qui en même temps dirige l'hebdomadaire confédéral La Voix du Peuple à partir de 1901. Et donc il s'est beaucoup renseigné, enfin documenté sur le mouvement pour les 8 heures, notamment aux États-Unis, en 1886 à Chicago, qui est le premier mai de l'histoire. Enfin, dès 1901 et puis en 1900, enfin jusqu'à 1904, il parle énormément de cette revendication et de la tactique employée par les syndicalistes américains de l'époque, en disant qu'il faut reprendre leur tactique. Donc leur tactique, quelle est-elle? C'est l'idée de faire ce qu'ils appellent une campagne d'agitation et de propagande. Qui va monter comme ça crescendo de la fin 1904 jusqu'au 1er mai 1906, avec l'idée d'une part d'ancrer dans les consciences ouvrières cette idée de la revendication des 8 heures, et si possible aussi de l'élargir à l'opinion tout entière. Et il voit ça comme une sorte de gymnastique en fait révolutionnaire. Où il n'est pas forcément toujours question de la grève générale, et d'ailleurs elle ne fait même pas partie du texte de la motion qui est adoptée ce jour-là, comme si elle était plus ou moins sous-entendue. Mais voilà, c'est une sorte de, encore une fois, le syndicalisme pensé comme une éducation en fait ouvrière. Donc à partir d'octobre et jusqu'au 1er mai 1906, ça va donc monter petit à petit. Beaucoup de choses sont faites. D'une part, des brochures sont éditées sur les bienfaits de la journée de 8 heures. On en vient même jusqu'à dire que la journée de 8 heures est même profitable au patron, puisque l'ouvrier, plus reposé, travaillera mieux. Avec aussi une notion assez neuve, qui est celle du loisir, qui est encore une notion toute bourgeoise et l'idée de repos vraiment réparateur et de loisirs ou de temps passé en famille qui est peu connue du monde ouvrier. Et voilà, et donc des brochures, énormément d'affiches, des meetings, et que ce soit à Paris ou dans tout le reste de la France, des sortes d'émissaires en fait de la CGT se déplacent pour un peu porter la bonne parole. Dans cette stratégie, on va dire, qui est construite, le 1er mai 1905 faisant figure un peu de test, au lendemain du 1er mai 1905, par exemple Victor Griffuel, Émile Pouget, ceux qui sont à la tête de la CGT, se disent que bon, il faut continuer la propagande, mais ils ont quand même bon espoir. Et il y a aussi toute une campagne donc d'affichage, par exemple, que j'ai retrouvé, qui est assez sympa aux Archives nationales, de tous ces petits, enfin des petits papillons de toutes les couleurs, où justement souvent penser effectivement comme dans un temps très binaire. Par exemple, on a une petite fille qui est toute faible, rachitique, et parce qu'elle travaille, c'est la journée de 10 heures, et la journée de 8 heures, on la voit, elle est en pleine forme. Et beaucoup de, par exemple, préparer, revendiquer les 8 heures, c'est préparer l'avenir, c'est préparer la grève générale. Enfin, voilà, le mot d'ordre, se décline vraiment de plusieurs façons. Donc tout ça est suivi bien sûr très attentivement, notamment par le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police. Mais dans un premier temps, c'est assez, on va dire qu'ils ne sont pas forcément très effrayés. Enfin, ils se disent, bon, la CGT prépare le 1er mai 1906. Bon. Et finalement, vraiment c'est à partir de janvier, enfin, dans les quelques mois avant le 1er mai, que ça s'accélère. D'une part, parce qu'encore une fois, la campagne s'intensifie. Et on verra après, en fait, quand à l'été 1906, quand la CGT dressera une sorte de bilan et fera les comptes, que l'énergie déployée est assez impressionnante par rapport au peu de moyens que pouvait avoir la Confédération pour mener cette campagne. Donc, à partir de janvier, février, etc. Et il y a un événement très marquant qui va être la catastrophe de Courrières en mars 1906. Donc dans le bassin minier, en fait, dans les mines de Courrières, une explosion survient et plus de 1100 mineurs meurent. Bien sûr, au début, au désespoir des familles et des mineurs qui sont remontés, va succéder bien sûr la colère, et d'autant que, alors on prouve très rapidement que la compagnie bien sûr est responsable, et alors que dans les premiers temps la presse, que ce soit la presse généraliste par exemple comme Le Petit Journal ou des journaux à fort tirage à l'époque, ou comme Le Petit Parisien aussi, qui s'efforcent d'être un peu souvent dans une ligne très consensuelle, puisque voilà, ils ont beaucoup de lecteurs et pas forcément très très marqués, ou des journaux plus marqués à droite, ils envoient tous des envoyés spéciaux. Il y a une sorte d'empathie avec le mineur parce que c'est un métier qui est difficile, qui est quand même respectable, etc. Donc il y a une sorte d'empathie face à la catastrophe. Et plus la colère va monter et le mouvement s'organiser, et après la grève débuter, plus le discours en fait va changer. Et l'un des temps forts de ce mois de mars, c'est justement une quinzaine de jours après, quand une vingtaine de mineurs ressortent par eux-mêmes de la mine, alors que les fouilles avaient été arrêtées. Et donc là, voilà, alors que déjà le climat était explosif, là, c'est ce qui permet de vraiment lancer la grève.
Parce que ça veut dire en fait que tous les gens qui sont morts, en réalité, une bonne partie aurait pu être sauvée si les ingénieurs et la compagnie n'avaient pas fait fermer les mines très rapidement pour sauver le stock de charbon, quoi.
Bah, en tout cas, pour ce qui est de l'explosion en elle-même, il est montré que les travaux de mise en sécurité, quoi, n'avaient pas été faits, donc ont entraîné l'explosion. Et effectivement, après, les recherches ont été stoppées très vite.
Et alors, du coup, pour revenir à ce moment charnière de la grève des mineurs de Courrières, là, on voit que, comme tu dis, il y a un basculement de la presse, mais aussi du gouvernement, puisque Clémenceau, au début, vient en disant, avec un discours très conciliateur, et ensuite, il va envoyer, je crois, 20 000 soldats pour calmer, les mineurs. Et là, on va passer, disons, dans une atmosphère très répressive qui va durer jusqu'au 1er mai 1906 inclus. Est-ce que tu peux du coup nous décrire un peu cette atmosphère répressive, à la fois, disons, dans les discours de la presse de droite, mais aussi du gouvernement, et aussi parler de l'imaginaire un peu du complot qu'il va y avoir, l'idée... parce que Aujourd'hui, on associe beaucoup le complot, bon, évidemment, à l'extrême droite. Donc là, effectivement, il y a un imaginaire du complot. Il y a une imaginaire d'une espèce de complot cégétiste. Hein. Il ne faut pas attendre le bolchevique, le couteau entre les dents. Hein. C'est un imaginaire qui existe déjà avant, qui existe même avant 1906, puisqu'il y a déjà l'imaginaire du complot anarchiste mondial. Donc là, il y a le complot de la Confédération pour détruire la France, voilà, qui exalte l'extrême droite, la presse d'extrême droite. Et puis après, il y a aussi un thème du complot aussi qui est développé par le gouvernement, assez invraisemblable, d'une alliance entre les monarchistes et les anarchistes. Il faudra attendre peut-être Trotsky pour avoir l'idée de cette fameuse alliance.
Ben, si on s'inscrit dans un temps un tout petit peu plus long qu'à l'échelle de quelques semaines ou mois, on va dire du point de vue ouvrier ou révolutionnaire, on pressent en tout cas que vraiment qu'il y a un espoir en tout cas qui est là à la veille du 1er mai. D'autant que, en tout cas, si on prend encore une fois la voix du peuple, c'est de 1904 à 1906, il n'y a pas un numéro où il n'est pas question du mouvement pour la journée de 8 heures. Enfin voilà, Pouget disait vraiment il faut obséder les cerveaux, il faut ancrer cette idée. Donc voilà, il insistait beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, dans le mouvement socialiste, donc qui est une revue proche du syndicaliste révolutionnaire à l'époque, donc le 15 avril, un des rédacteurs écrit « À l'heure actuelle, les ouvriers qui participent au mouvement des 8 heures ont la pensée tendue vers la grève générale, vers le bouleversement final. » Donc on est quand même dans un climat presque, encore une fois, là, messianique. On a, Anne Chénier en parle dans son livre « Le goût de l'émeute » de sidérurgistes lorrains qui, dans leur usine, ont mis en place un décompte. Dans tant de jours, nous serons libres, ou dans tant de jours, ce sera la révolution. Enfin, voilà, donc il y a quand même un peu ce climat, même si il faut faire, encore une fois, attention peut-être à un peu l'effet de source et ne pas trop s'emballer, mais on a un vrai espoir qui est là. Et qui, bien sûr, attire l'attention. Alors, à partir du mois de février 1906, il y a notamment un journal Le Matin, mais surtout L'Écho de Paris, qui est un journal réactionnaire qui est surtout lu par la bourgeoisie parisienne, qui va, à la manière d'un roman feuilleton, faire une chronique quotidienne qui s'intitule « La révolution qui vient ». Et chaque jour, il va être question de décrire comment la CGT prépare le grand soir pour le 1er mai. Et en fait, il y a plusieurs façons de lire cette pseudo-enquête, parce que eux, ils appellent ça une enquête. D'une part, il y a tout un vocabulaire que l'on retrouve aujourd'hui, donc où il est question des gréviculteurs de la CGT qui vont affamer la France, qui vont nuire à sa puissance économique, etc. Enfin, donc un discours très militariste en fait, qui présente la CGT comme une armée avec son siège qui est rue de la Grange-Aubelle, son état-major avec Pouget, Griffuels, Lévy, etc. Enfin, donc tout ce vocabulaire-là, centré d'une part sur la CGT, et en fait, une chose un tout petit peu plus subtile, même si ça ne l'est pas toujours, c'est que le but de cette campagne, outre d'agiter vraiment ce chiffon rouge quoi, de la révolution, c'est aussi pour atteindre le pouvoir en la personne, pas que Clémenceau, mais parce que ce sont les radicaux, donc du parti radical, hein, qui sont au gouvernement. Et d'expliquer ça permet aussi de comprendre en partie aussi la réaction que va avoir Clémenceau. Et il faut savoir que trois semaines après le 1er mai, il y aura des élections législatives où, encore une fois, faire bref, en gros, le parti conservateur espère bien, et clérical, reprendre la majorité. Et où on voit que s'affrontent là vraiment deux visions en fait de la France. On a d'un côté cette France en voie de laïcisation républicaine qui, dans une certaine mesure, reprend, comme on disait tout à l'heure, l'héritage de la Révolution française, etc. qui est quand même bien établie maintenant en 1906, et de l'autre, cette France encore chrétienne qui vient de connaître la violence qui était jusqu'alors réservée justement aux grévistes et aux ouvriers, la violence au moment de
l'instauration de la loi de 1905.
Voilà, de quand on a fait les inventaires. Donc voilà. Et notamment l'Écho de Paris, mais d'autres journaux comme par exemple le journal Le Monarchiste, Le Gaulois, mènent une vraie campagne en fait d'affolement en disant que la CGT va mettre Paris à feu, enfin Paris notamment, parce que c'est beaucoup centré sur Paris quand même, Paris à feu et à sang, et que en fait les meilleurs amis de la Révolution sont au gouvernement en la personne soit d'Aristide Briand, soit de Clémenceau. Et c'est vrai qu'à partir de la catastrophe de Courrières et les grèves qui vont avoir lieu dans le Nord, et donc notamment à Lens, mais il y a aussi eu quand même pas mal de mouvements, dans, par exemple dans les arsenaux, à Toulon, à Brest, et puis dans d'autres lieux en France. Mais pareil, là, ils vont envoyer des envoyés spéciaux, enfin, ils vont vraiment couvrir les événements en disant qu'on est au bord de la catastrophe. Et donc Clémenceau, effectivement, qui vient d'être fraîchement nommé ministre de l'Intérieur en mars 1906, ça, c'est quand il va à Courrières et à Lens, c'est sa première visite. Il se veut un peu en pacificateur, on va dire. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, si tant qu'il n'y a pas de violence, je n'enverrai pas l'armée. Et finalement, deux jours ou trois jours après, je ne sais plus, il ne tient pas parole et il envoie l'armée. Et il y a des affrontements, notamment avec les grévistes de ce bassin minier-là. Si bien que la tension est assez forte sur tout le mois de mars-avril. On pourrait faire une émission spéciale sur les mineurs, qui sont une corporation très spécifique quoi, dans la CGT, puisque les mineurs, ça fait longtemps en fait, quand même, qu'ils sont organisés. Il y a ce qu'on appelle le vieux syndicat, qui est un syndicat réformiste qui est très attaché justement à un syndicat de négociation quoi, entre ouvriers, patronat et État, et qui compte. Enfin, il y a ce qu'on appelle des députés mineurs à l'Assemblée, donc il y a un peu cet état d'esprit là. Et aux alentours de, j'ai plus d'état en tête, mais tout début XXe siècle, des personnages comme Benoît Broutchou, figure assez charismatique, enfin des anarchistes ou des syndicalistes révolutionnaires vont monter ce qu'on appellera en opposition le jeune syndicat, et qui vont être vraiment eux là les fers de lance de la grève, et en essayant de porter ce mouvement, de l'inscrire aussi dans le mouvement des 8 heures. Sauf que malheureusement pour la réussite du mouvement du 1er mai, très peu de temps, quelques jours à peine avant le 1er mai, les mineurs en fait reprennent le travail.
Et du coup, on voit qu'on est dans les jours et les semaines qui précèdent le 1er mai 1906, dans une espèce de bataille entre trois acteurs. Donc la CGT qui a son objectif d'inscrire la journée des 8 heures avec toujours cet imaginaire un petit peu du grand soir. Et d'un autre côté, ces deux adversaires qui accusent la CGT d'être en fait alliés avec leur propre adversaire. Donc la presse réactionnaire qui accuse en gros Clémenceau d'être quasiment un agent de la CGT, ce qui fait quand même un peu rigoler. Voilà. Et d'un autre côté, et ça c'est peut-être un peu plus surprenant, disons, il y a Clémenceau qui va commencer à faire courir des bruits à partir plutôt du mois d'avril, du coup, si j'ai bien compris, le bruit que finalement, et ça va être une tentative directe et très matérielle de saboter en fait le 1er mai, alors que autant on peut dire que ce que disait la presse monarchiste globalement, c'était pour faire peur, etc., etc., ça n'avait pas pour effet de saboter le 1er mai. Là, par contre, c'est directement le but est clairement de démobiliser la classe ouvrière en disant que en fait la CGT a été financée par les milieux réactionnaires monarchistes. Donc on joue un petit peu le côté c'est la République contre la réaction, et finalement l'extrême gauche anarchiste est du côté de la réaction.
Oui, un journal titrera justement ni révolution ni réaction. Pour faire le lien et revenir sur l'idée de complot, effectivement, toujours dans la presse conservatrice, il y a un peu cette idée enfin, même si la CGT agit au grand jour, il y a toujours cette idée un peu de main suspecte. Effectivement, on parle de, et pour relier au gouvernement, on parle pas mal du financement, en fait, des bourses du travail, le fait que ce soit des financements municipaux. Ou, voilà, il y a cette idée aussi d'organisation mystérieuse, clandestine ou secrète. Enfin, l'idée qu'il se trame quelque chose, que la CGT manigance et donc que le gouvernement laisse faire. Et effectivement, à 15 jours à peu près, quoi, du 1er mai. Ce qui est intéressant, c'est de voir les échanges qu'il peut y avoir entre Louis Lépine, préfet de police, le ministre de l'Intérieur, donc Clémenceau, et les différents services, où en fait on se rend compte que Clémenceau se dit, en gros, je peux pas laisser d'un côté la CGT préparer son mouvement, si faible soit-il, espère-t-il, et en même temps laisser les conservateurs nous tirer dessus. Et par exemple, ce qui est drôle, c'est qu'il demande à Lépine de faire rechercher, donc le préfet de police de Paris, à faire rechercher s'il y a des incohérences entre les milieux monarchistes, enfin si les milieux monarchistes n'auraient pas financé la campagne de la CGT. Et deux jours après, le préfet de police lui répond que jusqu'alors, les enquêtes faites en ce sens n'ont rien donné. Et pourtant, Clémenceau décide d'effectivement, sort de son chapeau une idée totalement farfelue, donc d'un complot pour faire court entre extrême droite et extrême gauche, quoi. Et il y a notamment Pierre Monnat, qui est à ce moment-là dans le Nord, parce qu'il aide en fait à la fois la CGT locale et il a repris le journal. Enfin, il reprend un temps le journal de Benoît Brouchou, parce que Benoît Brouchou, à la suite des grèves de mars-avril, début avril, est en prison. Et il est arrêté, il est arrêté, donc je crois le 28 avril, pour complot contre la République, avec des soupçons de financement. Et dans le même temps, à Paris, il y a une descente au siège de la CGT. Et par exemple, Griffuels écrit quelques jours après, je ne me rappelle plus de la cause de la mise en accusation, mais il montre bien qu'en plus, ils ne sont même pas accusés de la même chose, donc que l'accusation de complot ne tient pas. Et que ce soit tant la presse révolutionnaire ou syndicaliste que la presse cléricale, comme La Croix ou la presse conservatrice, ou même d'extrême droite, comme par exemple la libre parole de Drumont, qui écrit beaucoup et qui lui aussi alimente beaucoup cet imaginaire du complot, sauf que lui, il voit aussi par exemple la main des Juifs dans cette histoire, puisqu'il a ce truc d'obsession antisémite. Tous vont de toute façon dénoncer le complot, alors pas bien sûr avec la même vigueur ou avec les mêmes arguments, mais bon. Et donc ce qui fait que, par ailleurs, Clémenceau et Lépine, de concert, décident de mettre ce qu'on a appelé Paris en état de petit siège, où il y a plus de 30 000 hommes, avec déjà la police, quoi, déjà présente à Paris, et donc de faire venir 30 000 hommes de troupes sur Paris, si bien que à la veille du 1er mai, Paris est totalement cadenassé, Paris, des quartiers de Paris, notamment tout le quartier autour de la place de la République et de la Bourse du Travail. Et ce qui donne des... Donc il y a une sorte de vent de panique un peu qui s'empare à en lire la presse, en tout cas, de la population, parce que donc on a des récits assez drôle à lire à ce moment-là, ou même des photos par exemple de files incroyables devant des épiceries, enfin voilà, les gens qui font soit des provisions, soit qui courent vers les trains pour partir à la campagne. Il y a une note, alors est-ce qu'elle est vraiment vraie, de une note de la préfecture de police qui dit que la location des coffres-forts ont augmenté, etc. Enfin voilà, donc il y a encore une fois ce climat de tension et de peur à la veille du 1er mai. Et finalement, le 1er mai en lui-même, donc il y a certains mouvements qui ont commencé juste avant, mais le 1er mai, on va dire, c'est un peu le
déclencheur.
Ouais, voilà. Enfin, les corporations, différentes corporations qui se mettent en mouvement, et il y a beaucoup d'assemblées générales qui se tiennent, notamment à la Bourse du Travail. Sauf que, comme je l'ai dit, le quartier est bouclé et on voit, enfin, on trouve très facilement, par exemple, sur Internet des images de Paris le 1er mai 1906 et c'est assez impressionnant parce que il y a toute une foule d'ouvriers, d'ouvrières, en tout cas de personnes de quartiers populaires qui sont là avec aussi des badauds, enfin des gens très assez endimanchés, comme si il faisait assez beau ce jour-là. On était partis se promener et voir ce qui pouvait se passer le 1er mai. Et donc ce qu'on appelait les dragons, donc la police montée, etc. Enfin, là, il y a une atmosphère très, très particulière. Et finalement, le jour du 1er mai, il y a des échauffourées, il y a des blessés, mais il ne se passe pas grand-chose et on attend de voir ce que le mouvement gréviste en fait va donner.
Et justement, qu'est-ce qui va se passer après le 1er mai 1906? Il y a quand même malgré tout une semi-réussite dans le sens où il y a quand même au moins 200 000 grévistes en région parisienne. Et d'un autre côté, il y a aussi un semi-échec qui va finalement marquer l'apogée du mouvement syndicaliste révolutionnaire, en même temps le début de son déclin, dont on a pas mal parlé avec Guillaume Davanche.
Bah, au plus fort de la mobilisation vers le 15 mai, effectivement, il y a 200 000 grévistes. Les notes de police sont assez alarmantes et sont plus alarmantes que la confiance qu'on retrouve, par exemple, chez les syndicalistes révolutionnaires, même si dans la voix du peuple, bien sûr, on pousse et on encourage bien évidemment à la mobilisation. Mais là où c'est décevant, c'est que pratiquement aucune corporation n'obtiendra la journée de 8 heures. Les typographes obtiendront les 9 heures. Mais enfin, voilà, il n'y aura pas d'avancée sociale, en tout cas directe, quoi, à la suite de ce mouvement. Pour autant, dès juin-juillet, où la CGT commence à faire un bilan, par exemple, donc Pouget dit que c'est tout à fait... Il dit on a voulu, alors après, on n'a pas... C'était une sorte de tremplin, en fait. Encore une fois, cette idée de gymnastique, quoi. On n'a pas obtenu les 8 heures, mais le mouvement était formidable, l'énergie, etc., enfin... C'est vrai qu'il se satisfait assez de la pénétration, quoi, de l'idée dans les consciences. Après, pendant les quelques années qui vont suivre, on reste donc dans un temps d'agitation sociale très très fort et avec des nouvelles, on va dire, catégories, quoi, de personnes qui entrent dans la lutte, notamment les fonctionnaires qui essayent d'avoir le droit justement de se syndiquer, qui se montrent en fédération, etc. Ou dans le Midi, chez les vignerons. Enfin voilà, il y a pas mal de foyers comme ça de contestation. Et pour autant, notamment par exemple la grève des postiers de 1909 ou la tentative de grève générale que Guillaume explique très bien dans son livre des cheminots en 1910, la grève de la thune, seront très décevantes et seront, je ne sais pas si on peut dire démobilisatrices, mais en tout cas feront un peu mal à la stratégie grève généraliste qui avait été prônée pendant quasiment 10 ans par les personnes à la tête de la Confédération. Et c'est tout ça est assez progressif, mais on en vient effectivement à remettre en cause ce romantisme révolutionnaire de la grève générale qui débouchera sur la révolution. Et l'idée aussi un peu de la grève générale violente parce que expropriatrice, etc. Si l'espoir et l'envie sont encore là, l'efficacité, quoi, de la méthode est de plus en plus remise en cause, d'autant que à partir de 1909 et en partie parce que Clémenceau, qui est ministre de l'Intérieur et qui en plus après devient aussi en même temps président du Conseil, mène vraiment la guerre, quoi, à la CGT, et la répression est très forte, et notamment Griffels qui est de nouveau emprisonné. Et voilà, et donc la lutte qui a toujours existé entre les deux courants principaux, quoi, de la CGT, entre réformistes et révolutionnaires, là se renverse à la faveur des réformistes, et donc la tactique de grève générale est vraiment remise en cause.
Oui, et ce qui fait que derrière, comme on l'avait vu avec Guillaume d'Avranches dans l'émission qu'on avait fait avec lui, l'idée qu'une grève générale européenne puisse finalement stopper la Première Guerre mondiale va être évoquée, mais en réalité, elle ne sera jamais vraiment prise au sérieux par les dirigeants de la CGT. Et finalement, à partir de 1914, et le ralliement de son nouveau secrétaire général, Léon Jouot, à l'Union sacrée, la CGT va rentrer dans une période de réformisme. Et puis ensuite, elle va se dédoubler hein, avec la naissance du Parti communiste, la révolution russe et tout ça, vers une option qui ne sera plus celle du syndicalisme révolutionnaire, mais plutôt celle du bolchevisme, c'est-à-dire finalement d'une inféodation du syndicat au parti qui prétend mener la révolution mondiale, mais une conception de la révolution mondiale qui est quand même très différente de celle du syndicalisme révolutionnaire, notamment parce qu'elle est... centrée non pas sur, à la limite, une minorité révolutionnaire qui entraînerait les masses, mais une minorité révolutionnaire qui les dirige et, de manière dictatoriale. Donc le principe hein, et la stratégie du léninisme. Et où finalement, l'idée du grand soir est remplacée par la prise du pouvoir, par le parti et par la dictature du prolétariat. Donc quand même un imaginaire qui est quand même très très différent. Et donc finalement, c'est ces deux tendances, hein, les deux tendances de la CGT et plus généralement les deux tendances du mouvement ouvrier qui vont dominer, hein, même si le syndicalisme révolutionnaire va encore un peu résister à la fin des années 1910 et au début des années 20, mais il va être progressivement broyé par la bolchevisation à partir de 1922-23. Et on a finalement le mouvement ouvrier français qui est encore là, c'est-à-dire un mouvement où vont coexister réformisme et inféodation au Parti communiste. Et puis, par certains moments, ça va juste être réformiste, hein, comme pendant la période, disons, du Front populaire, où depuis, la déstalinisation, entre guillemets, de la CGT. Et du coup, finalement, dans tout ça, l'imaginaire du grand soir va disparaître. Parfois, il va être projeté sur d'autres pays, par exemple, la Révolution espagnole de 1936. Il va renaître un petit peu en mai 68, mais bon, est-ce que c'est vraiment l'imaginaire du grand soir? C'est peut-être compliqué de le dire. Enfin, en tout cas, il y a quand même l'idée, dans les années 68, pour un certain nombre de militants, que la révolution est imminente. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais au sujet de l'héritage du grand soir, donc après la période dont tu discutes dans ton livre?
Bah, tu l'as déjà pas mal résumé, j'ai l'impression. Après, j'ai pas fait d'études sur le XXe siècle après la Première Guerre mondiale, donc je serais moins capable d'en parler. Je sais que lors de rencontres que j'ai pu faire, de discussions autour du livre, de nombreuses personnes m'ont dit que, qu'en 68, en 95, on parlait du grand soir. Alors après, dans quels termes peut-être que cette dimension, vraiment, comme on disait tout à l'heure, millénariste, elle était moins présente, mais ça restait quand même une image assez positive qu'on garde à l'esprit, quoi. Enfin, pas forcément une fin en soi, mais quelque chose... une image pour laquelle, en tout cas, on a de la sympathie. Après, ce qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance de l'idée de grand soir, mais en tout cas, les idées, radicales, il y a un besoin et une envie de radicalité en tout cas, qui sont exprimées. Et pour ce qui est de l'expression elle-même, j'ai l'impression qu'elle sert par contre un peu de repoussoir parfois et qu'elle est employée, en tout cas dans l'autre camp, pour décrédibiliser, soit pour se moquer.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'imaginaire du grand soir, et même d'ailleurs dans une partie de l'extrême gauche est devenu une espèce un peu de farce hein. Et même si dans la bourgeoisie c'est une farce mêlée d'un vieux fond d'inquiétude, mais ce vieux fond d'inquiétude est quand même moins fort qu'à une époque, même si pour le coup dans les années 68, par exemple, on peut dire que la bourgeoisie italienne a vraiment eu très peur. Voilà, en France peut-être un petit peu moins, mais enfin en tout cas en mai-juin 68 quand même un petit peu. Et finalement, cette expression, lorsque la conflictualité sociale est faible, elle est plus une espèce de farce, et où finalement, où la presse bourgeoise va se moquer finalement des mouvements sociaux pour dire « Ah, vous voulez le grand soir ?» alors que, en fait, il s'agit de mouvements en général défensifs, et du coup, c'est une manière finalement de les railler un petit peu. Et en même temps, effectivement, avec un renouveau d'une conflictualité sociale plus forte, comme ça commence aujourd'hui, ou en tout cas comme c'était clairement le cas dans les années 68, là, l'expression du grand soir commence à prendre, disons, un petit peu plus forme, même si elle est combattue par tout le monde, hein, par la presse bourgeoise, mais aussi dans les années 68 par, évidemment, le marxisme-léninisme qui raillait l'aventurisme, petit bourgeois, etc. etc. Peut-être que cette idée du grand soir, elle est vouée à rester une image principalement littéraire, une espèce de mythe. Mais par contre, ce qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est de s'intéresser à l'idée, en tout cas, que la transformation sociale ne se fait pas par, enfin, ne devrait pas se faire, disons, par des réformes, ou uniquement par des mouvements sociaux défensifs, ou uniquement, ou alors par une voie plutôt politique, qu'elle soit dictatoriale ou de conquête du pouvoir, mais par l'idée d'une espèce de rupture révolutionnaire. Et c'est pour ça que, même si finalement on peut trouver cette idée un peu naïve, bien sûr, et que sans doute que les stratégies qui historiquement lui ont été associées, comme la grève générale, peuvent paraître aujourd'hui un peu obsolètes, en tout cas l'idée d'une rupture révolutionnaire, où il n'y aurait pas de phase de transition, mais où immédiatement, finalement, dans la rupture révolutionnaire même, serait créée une autre société, donc quelque chose qu'on trouve par exemple dans le courant de la communisation, en tout cas cet imaginaire paraît pertinent aujourd'hui, surtout dans une époque où les luttes sociales commencent à remonter et où elles risquent de se faire enfermer par les vieilles lunes du réformisme ou des solutions plus autoritaires. Et même si, évidemment, ça ne revient pas à condamner évidemment cette remobilisation d'un imaginaire d'une rupture radicale, ça ne revient pas à condamner évidemment des luttes plus locales, plus modestes ou plus défensives. Mais enfin, en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle on a fait cette émission, c'est qu'on pense que malgré tout, ce genre d'optique d'une rupture radicale avec la société existante, c'est important, disons, de le maintenir à l'esprit, et que ce n'est pas qu'une vieille lune et qu'il faudrait ranger dans les poubelles de l'histoire, mais que ça peut être encore aujourd'hui pertinent, au moins de l'imaginer, au moins de faire, même s'il faut évidemment intégralement la repenser. Voilà, donc merci Aurélie Carrier de nous avoir présenté ce livre qu'on invite vivement à lire. Donc c'est paru aux éditions Libertalia en 2017. Et on retrouve donc ce que tu as dit, mais aussi pas mal d'autres analyses, notamment l'analyse littéraire que j'ai trouvée très intéressante. Et puis la description de cette préparation, des semaines qui précèdent le 1er mai 1906, qui est aussi très intéressante. Merci.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.